Fait qu'on va commencer. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous avez une heure de plus pour snoozer. C'est plus difficile au printemps. C'est plus difficile au printemps. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Joël Neves. Je suis normalement un peu plus en arrière et là, je suis bien devant vous. Alors, je suis. En fond, un ancien ici à l'Église de l'Espoir. Je suis trésorier. Je suis Maria Monica qui a fait en sorte que j'ai mon meilleur profil. Papa d'Élisabeth qui peut maintenant voter. Et papa de Daniel qui est maintenant presque aussi grand que moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment la tâche de venir vous partager les chapitres 20, 21 et 22 de ce livre, La Providence de Dieu. Alors, c'est tout un défi, peu importe quel chapitre on avait. Ça a été un peu la providence pour moi aussi. Je pense que pour tous les autres anciens, quand arrivait le moment de choisir les chapitres, c'est la providence. Alors, je vous dirais que mon objectif, c'était de pouvoir le faire plus tôt que plus tard. Alors, j'ai regardé les chapitres, dit, je vais prendre celui-là, pas sachant encore exactement, spécifiquement sur quoi j'allais enseigner. Mais je me dis, je vais vivre pleinement la providence de Dieu, même en enseignant le cours. Alors, le thème, c'est la providence de Dieu qui s'exerce sur les rois et les nations. Alors, merci d'être présent aujourd'hui pour cet atelier biblique. Nous continuons notre étude du livre La providence de Dieu de Piper et nous allons plonger dans un thème central, à savoir la providence de Dieu qui s'exerce sur les rois et les nations. Ce sujet peut sembler théorique, mais il a des implications profondes et concrètes pour notre vie quotidienne. J'aimerais que vous puissiez sortir d'ici aujourd'hui convaincus que Dieu contrôle vraiment le cours de l'histoire. J'espère que vous quittez cet atelier avec une plus grande confiance en la souveraineté de Dieu et un engagement renouvelé à lui faire confiance, même quand les choses semblent incertaines ou hors de contrôle. Lorsque j'ai lu les chapitres parce que là, il y a les chapitres de la Bible, les chapitres du livre. Alors, lorsque j'ai lu les chapitres du livre, je me suis rendu compte que c'est presque une étude des chapitres 4 et 5 du livre de Daniel. Et il fait beaucoup référence tout au long des chapitres. Alors, je voulais voir, j'ai regardé, bon, quelle était la meilleure façon d'amener ça passage par passage. Mais j'ai cru bon, tout simplement, qu'on puisse lire ensemble. En fond, je vais lire, mais qu'on puisse lire les deux passages principaux, si on veut. Il fait des références un peu à l'extérieur, mais les deux passages principaux qu'on va étudier ensemble. Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre avec moi le livre de Daniel. On va prendre le chapitre 4 et on va lire à partir du verset 16. Je vais lire dans la version sommaire. Mais si vous avez la version, la nouvelle édition de Genève, c'est, je crois, à partir du verset 19. Alors, il y a comme un décalage qui se fait au livre de Daniel. Fait que moi, je vais lire à partir du verset 16 et vous, c'est probablement le 19 si vous avez cette version-là. Un peu une mise en contexte, où est-ce qu'on est dans cette lecture-là. Alors, le roi a eu un songe. Il appelle ses sages pour qu'ils puissent interpréter ce songe-là. Ils ne sont pas capables. Alors, il appelle Daniel pour avoir l'explication de ce songe. Fait qu'on entre dans l'histoire, on est vraiment dans la discussion, dans l'échange entre les deux. Alors, Daniel 4, verset 16, il sera pas affiché, là, vous pouvez lire avec moi. Alors Daniel, nommé aussi Balthazar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit, « Balthazar, que le songe et son explication ne t'effraient pas. Monseigneur, répondit Balthazar, je souhaiterais que le songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. Tu as vu un arbre grandir et devenir vigoureux. Sa cime touchait le ciel. » Et on le voyait de toute la terre. Cet arbre au feuillage magnifique et aux fruits abondants portait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi. Car tu es devenu grand et puissant, ta grandeur s'est accrue Elle atteint jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillaient, un saint, descendre du ciel et crier, « Abattez l'arbre et détruisez-le. Laissez toutefois en terre la souche avec les racines, mais liée de chaînes et de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux des champs jusqu'à ce que sept temps aient passé. » Voici ce que cela signifie au roi. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre Monseigneur le roi. On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant sept temps jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre. Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Verset 25. Tous ces événements s'accomplirent pour le roi Nabuchodonosor. En 12 mois plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit, « N'est-ce pas là Babylone la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance, pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel, « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes, il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient à des griffes d'oiseaux. Au terme du temps annoncé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut, je louai celui qui vit éternellement et je proclamerai sa gloire. Sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent rien devant lui et il agit comme il l'entend, envers l'armée des êtres qui vivent dans le ciel et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher « Que fais-tu? » Alors même de la raison me revint, la gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il en fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Et maintenant, on va juste faire une lecture également du chapitre 5, et à partir du verset 23, on va voir un peu l'histoire, ce qui s'est passé avec son enfant, son fils, Balthazar. Alors, chapitre 5, au verset 23. « Et toi, son fils, Balthazar, tu savais que tout cela, et cependant tu n'as pas adopté une attitude humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et tu t'es fait apporter des coupes de son temple, puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer et de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé ton son demain pour tracer cette inscription. » Voici l'inscription qui a été tracée là. Il a été compté une mine, un cycle et deux demi-cycles. Voici l'interprétation. Une mine, Dieu a compté les années de ton règne et il les a menées à un terme. Un cycle, tu as été pesé dans la balance et on l'a trouvé que tu ne fais pas le poids. Deux demi-cycles, ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, comme il l'avait promis, si quelqu'un interpréterait cette écriture. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre et lui remettre une chaîne d'or au cou et de faire proclamer qu'il partagerait le gouvernement du royaume avec deux autres hauts fonctionnaires. Mais dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Alors ici, on voit deux histoires, deux passages que Piper utilise tout au long de ces chapitres-là pour faire référence au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Au chapitre 20, le roi d'Israël et le roi des nations. Ce chapitre du livre aborde la manière dont la providence divine régit les nations et les rois tout au long de l'histoire. Il nous donne une perspective chrétienne sur ce que cela signifie aujourd'hui. En examinant le trône d'Israël, la pertinence de la providence sur les nations de l'Ancien Testament et la souveraineté ultime de Dieu sur tous les rois. Piper dévoile la portée universelle de la gouvernance de Dieu. Cette réflexion se divise en trois points principaux qu'on voit dans ce chapitre. La nation d'Israël et l'Église de Jésus-Christ. La pertinence de la providence divine sur les nations de l'Ancien Testament pour aujourd'hui. Et en troisième point, la souveraineté de Dieu sur tous les dirigeants. On va commencer par le premier point. Piper commence par montrer qu'Israël a été choisi par Dieu pour être un exemple visible de sa providence sur une nation particulière. Dieu avait d'abord dispersé les peuples après la tour de Babel, qu'on lit ça en Genèse, on lit l'histoire en Genèse 11, établi des nations aux langues et aux cultures distinctes. Puis il a choisi Israël en appelant Abraham pour devenir un père d'une multitude de nations. On lit ça également dans Genèse, mais au chapitre 17. Israël est ainsi devenu une nation que Dieu a choisie pour faire une alliance et démontrer la fidélité de la puissance de Dieu. L'auteur nous explique que cette promesse faite à Abraham s'étend sur toutes les nations à travers la foi en Jésus-Christ. Paul rappelle aux croyants, en Romains 4, et au verset 16 et 17, que les croyants de toutes les nations sont héritiers spirituels d'Abraham, confirmant que Dieu rassemble un peuple pour lui-même. Cette vision est réaffirmé par l'apôtre Jean dans Apocalypse 5, où il voit une multitude de croyants de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation, rachetés par le sang de Jésus-Christ. La mission de l'Église est donc une extension de l'œuvre de Dieu avec Israël, qui est maintenant accessible à tous à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Une application pour aujourd'hui, la relation de Dieu avec Israël est un exemple de sa fidélité et de sa providence que nous voyons accomplie tout au long de l'Ancien Testament. Si on passe au deuxième point, la pertinence pour aujourd'hui de la providence sur les nations de l'Ancien Testament. Dans cette section, Piper explique pourquoi la providence de Dieu sur les nations de l'Ancien Testament reste pertinente pour les chrétiens d'aujourd'hui. On voit que dans la Bible, que Dieu est activement impliqué dans les affaires des nations, pas seulement Israël, mais également des autres royaumes, comme en témoigne le livre de Daniel. On voit dans Daniel, on a lu au chapitre 4, verset 17, il est écrit que « Le Très-Haut domine sur le règne des hommes et le royaume et il donne le royaume à qui il plaît. » Cela signifie que bien que chaque nation soit unique, elles sont toutes sous l'autorité de Dieu. Piper mentionne aussi que dans Matthieu 28, 19, où Jésus charge les disciples de faire des disciples de toutes les nations. Cela montre que la providence divine n'est pas seulement limitée à l'Ancien Testament, mais qu'elle est également pertinente aujourd'hui. Dieu, qui règne sur toutes les nations, a donné la grande commission à ses disciples pour propager la bonne nouvelle. L'application pour aujourd'hui de cette section-là, pour le chrétien d'aujourd'hui, comprendre que Dieu règne sur toutes les nations procure une assurance. Même au milieu des conflits, des guerres, nous pouvons rester fermes dans notre mission, sachant que Dieu a un plan pour chaque nation et qu'il n'a rien échappe à sa providence. Troisième point de ce chapitre-là, l'Éternel est roi et règne sur tous les rois. Dans le dernier point, Piper affirme que Dieu est non seulement le roi d'Israël et des nations, mais aussi le roi des rois. Sa souveraineté absolue est clairement illustrée dans les passages de Daniel 4 et 5 qu'on vient de lire, où le roi de Nabucodonosor puis son fils Balthazar sont confrontés à l'autorité de Dieu. Après avoir été humilié par Dieu, Nabucodonosor reconnaît que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Aussi, dans Daniel 5, 20 et 21, Balthazar est jugé pour son arrogance et Daniel lui rappelle que Dieu détient le souffle et toutes les voies du roi sont dans sa main. Ces récits montrent que même si les rois les plus puissants ne peuvent échapper au jugement divin, nous voyons ça aussi dans le Nouveau Testament où Jésus est révélé comme le roi des rois en Apocalypse 19, 16, que son royaume est éternel et dans Luc 1, 32-33. Dieu seul est le roi des rois et tous les rois de la terre sont sous sa domination. Une application pour aujourd'hui, dans un monde souvent incertain où nous observons des tensions politiques entre les pays, les croyants peuvent être assurés que Dieu est le roi des rois. Cela devrait nous inviter à prier pour nos dirigeants, mais aussi à lui faire confiance car Dieu dirige tout pour accomplir ses desseins éternels. Le chapitre 20 nous rappelle que la souveraineté de Dieu sur Israël, les nations et le roi transcendent le temps. Et la promesse faite à Abraham jusqu'à l'Église universelle, l'Église avec un grand E, en passant par les royaumes païens et les intestaments, la providence de Dieu continue de guider l'histoire à rassembler un peuple pour Dieu. Cette souveraineté divine nous donne une perspective précieuse sur notre monde. Peu importe les situations ou les dirigeants en place, Dieu reste en contrôle. La providence de Dieu n'est pas seulement une doctrine, mais une réalité vivante qui nous appelle à la foi, à la prière et à la confiance. Cette compréhension de la providence divine nous encourage à vivre la paix, sachant que notre roi est aux commandes, maintenant et pour toujours. Les chapitres 21 et 22 du livre, c'est la suite. Alors, il le séparait en deux blocs, mais lorsqu'on lit cette section-là, on s'aperçoit que Piper développe 9 points, puis je pense qu'en fait, il les sépare en deux, une partie dans le chapitre 21, puis une autre partie dans le chapitre 22. Alors, je vais vous partager, on va regarder ça ensemble, mais on va les regarder d'un seul bloc. Pour cette deuxième section, Piper explore comment Dieu exerce son autorité non seulement sur le peuple d'Israël, mais sur toutes les nations. Il a identifié 9 vérités que Dieu, au travers des récits que nous allons voir, nous donne au sujet de sa providence sur les rois et les nations. On peut voir dans les passages chapitre 4 de Daniel que Dieu humilie le cœur des rois, des nations, ainsi que le nôtre. Nous allons passer au travers de chacun de ces points et on va commencer par le premier. Point 1, le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Le verset pour ce point-là, c'est Daniel 4, 17. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, il le donne à qui lui plaît, et il élève le plus vil des hommes. Pour notre premier point, regardons ensemble ce que ça signifie vraiment que Dieu domine sur le règne des hommes. Dans le livre de Daniel, ce thème est clair. Dieu a autorité sur tous les royaumes, les gouvernements, les dirigeants. Aucun roi, aucun premier ministre, aucun président, aucun gouvernement ne peut échapper à sa souveraineté. Piper souligne que Dieu est souverain sur toute autorité humaine. Daniel 4:17, nous lisons que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Dieu exerce ainsi son autorité ultime, qu'il s'agisse de rois ou de simples sujets. Il place des dirigeants dans des rôles de pouvoir pour servir ses desseins. Une idée centrale du livre de Daniel est que Dieu a autorité sur tous les dirigeants. Il contrôle le choix des dirigeants, mais également leurs décisions et leur influence. Nous voyons aussi que dans Daniel 4, Nabuchodonosor fait l'expérience directe de la souveraineté de Dieu. Après avoir eu un rêve prémonitoire, Daniel l'interprète et l'avertit que son orgueil le mènera à être humilié. L'épisode que le roi Nabuchodonosor va vivre démontre clairement que malgré son autorité, c'est Dieu qui dirige toute l'histoire. Tout cela nous montre que Dieu est réellement au contrôle, même lorsque un dirigeant humain semble avoir tout le pouvoir. Cela nous apprend aussi que même si des dirigeants injustes semblent prospérer, c'est Dieu qui dirige et leur permet d'être au pouvoir. Une application concrète pour aujourd'hui, ceci est un appel que Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Dans nos vies, dans nos sociétés, nous devons choisir de faire confiance en Dieu, et il est plus grand que n'importe quel gouvernement, et il dirige toutes choses pour accomplir son plan. Dans les feuilles que vous avez reçues, je vous ai partagé quelques questions de réflexion que je n'ai pas l'intention, un, de répondre, parce que des fois, c'est des questions personnelles, puis des fois aussi parce que je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que c'est écrit « questions pour réflexion ». Dans cette section, pourquoi est-il parfois difficile de faire confiance à la souveraineté de Dieu, surtout dans le contexte politique actuel? Est-ce que nous avons des attentes personnelles que nous devons aligner davantage sur sa volonté? Des fois, on est cynique et on a un regard sur la politique comme si Dieu était absent, mais Dieu est là. Et Dieu veut réellement sauver les hommes, mais c'est ça. Des fois, on peut, même étant chrétien, on se dit que Dieu est des fois absent lorsqu'on voit les choix des politiciens ou les choix des gouvernements. Au point 2, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Le verset de cette section, c'est Daniel 4, 35, « Tous les habitants de la terre ne sont que néant à ses yeux Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. » Notre deuxième point est une autre grande vérité que nous trouvons dans le livre de Daniel. En effet, ce verset nous rappelle notre petitesse face à la grandeur de Dieu. Piper explique que, comparé à la majesté divine, même les dirigeants les plus puissants sont insignifiants. On voit également dans Isaïe 47 qui exprime cette vérité. « Toutes les nations sont devant lui » comme un rien. Ce point reflète la petitesse de l'homme face à la grandeur de Dieu. Ça veut dire que Dieu est tellement grand, tellement puissant, qu'à côté de lui, nous sommes petits. Ça ne veut pas dire que nous n'avons aucune valeur, mais que comparé à sa grandeur, nos pouvoirs sont limités. Il continue en disant que la grandeur de Dieu est telle que les puissants de ce monde, même les plus influents, sont comme un rien devant lui. Il montre que cette humilité est fondamentale pour comprendre notre place devant Dieu, infiniment puissant et saint. Nous avons encore l'histoire de Nabuchodonosor qui était extrêmement puissant et pensait qu'il était au-dessus de tout. Il se vantait de son pouvoir et de sa grandeur, mais est rapidement rappelé à la réalité. En Daniel 4, 32, Dieu lui dit qu'il aura sa demeure avec les bêtes jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Dieu l'a abaissé, l'a rendu fou pendant un temps pour lui montrer que sans Dieu, il n'était rien. Son temps de folie le conduit à comprendre que devant Dieu, les hommes, même le plus puissant, sont insignifiants. Cette leçon souligne que l'humanité, dans sa fierté, ne peut rivaliser avec la grandeur divine. Piper y voit un rappel que même le plus grand est tout petit devant le Créateur. L'application pratique, nous avons tendance à penser que nous contrôlons nos vies, que nous sommes les maîtres de notre destin, mais souvent, la souveraineté de Dieu nous rappelle que tout ce que nous avons vient de lui et nous sommes dépendants de lui. Ce n'est que lorsqu'on accepte cette vérité que nous trouvons une paix véritable. Quelques questions pour vous, j'en ai deux ici. Quels sont les domaines de votre vie que nous avons du mal à confier à Dieu? Que devons-nous faire pour reconnaître notre dépendance envers lui? C'est à vous d'y réfléchir et d'y penser et d'y répondre. Le point 3, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et des habitants de la terre. Ici, le verset, c'est le Daniel 4, 35. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. C'est carrément le verset, le titre. Pour notre troisième point, nous voyons que Dieu agit comme il lui plaît. Piper insiste ici sur la souveraineté de Dieu. Dieu n'a besoin de la permission de personne pour accomplir sa volonté. Et aucun plan humain ne peut contrecarrer son plan. On voit cela clairement dans Daniel 4, 35. Il agit comme il lui plaît. Dieu dirige les actions, les événements et même les décisions des hommes pour accomplir ses desseins. Dans le livre, nous avons l'exemple lorsque les Syriens ont été vaincus par Israël sur les collines. Les Syriens justifiaient leur défaite en disant que c'est parce que l'Éternel était un Dieu des montagnes. Alors, face à cela, Dieu a démontré qu'il était non seulement un Dieu des montagnes, mais également des plaines. En une seule journée, les Israéliens tuèrent 100 000 fantassins syriens. 100 000 fantassins syriens. J'allais faire une petite recherche. C'est environ le total de l'armée canadienne aujourd'hui. Alors, ça donne une perspective de la grandeur. Aux pages 299 et 300, il est écrit que l'intention de Dieu est de montrer deux vérités. Premièrement, que ses plans vont demeurer en vigueur et ne peuvent être anéantis par l'homme. Ésaïe 14, 27 nous dit « L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? » Deuxièmement, qu'aucun plan divin ne peut se réaliser que s'il s'inscrit dans celui de Dieu. Qu'il s'agisse des plans des nations les plus puissantes, de ceux des rois pour eux-mêmes ou de ceux de leurs sujets. Ce sont les plans de Dieu qui déterminent quels plans humains aboutissent ou non. Dans Psaume 33, 10, il est écrit « L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. » Application pratique pour ce point-là. Parfois, dans notre vie, les choses ne se passent pas comme nous l'avons espéré, mais si nous croyons que Dieu agit comme il lui plaît, nous pouvons être en paix. Dieu connaît le futur, il est celui qui voit tout et il guide chaque étape de notre vie. Question de réflexion pour ce point-là. Comment pouvons-nous trouver la paix quand nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous? Le souffle et toutes les voies du roi sont dans la main de Dieu. Le point 4. Daniel 5, 23. Tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. Dieu est en contrôle de tout, même nos respirations, où on place notre pied ou quand on le cogne sur le coin d'une table, car c'est lui qui tient tout cela entre ses mains. Et on voit que cet élément n'avait pas été compris et accepté par Balthazar. Daniel 5, 23, on lit « Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. » Piper explique que même les pensées, les plans et les actions des dirigeants ne sont sous l'autorité de Dieu. Dans Proverbe 21, on lit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. » Cette image montre la totale souveraineté de Dieu qui dirige les rois selon ses propres voies. Ce réflexe de vouloir garder le contrôle le réflexe de vouloir garder le contrôle de sa vie ne se limite pas seulement au temps de l'Ancien Testament. Nous voyons cela encore aujourd'hui. L'homme croit qu'il est au contrôle de sa vie sur terre et même après la mort. Prenez l'exemple de Walt Disney et sûrement d'autres aussi qui se sont congelés afin d'être en mesure de revenir en vie un coup que, selon eux, la recherche arrive à ce point pour pouvoir les faire ressusciter. C'est Dieu qui tient dans sa main ton souffle et ta destinée. L'application pratique, c'est un encouragement à prier pour nos dirigeants, même avec ceux à qui nous ne sommes pas d'accord. Dieu peut toucher leur cœur et il peut agir à travers eux. Quelques questions de réflexion. Comment pouvons-nous, de façon concrète, rendre gloire à Dieu pour le souffle qu'il nous donne chaque jour? En quoi cette reconnaissance peut-elle changer notre perspective sur la vie et la mort? Peut-être vous avez été malade et peut-être c'est là que vous avez cette perspective. Peut-être vous donnez une valeur à la santé et cette valeur à la santé, on la donne quand on ne l'a pas bien souvent. Alors, ce serait intéressant et important de pouvoir se positionner là-dessus également. Le Très-Haut donne le règne à qui lui plaît et il élève le plus vil des hommes. Passons maintenant à notre cinquième point. Dans ce verset, il est dit que Dieu élève le plus vil des hommes dans Daniel 4, 17. Piper explique que Dieu place au pouvoir ceux qu'il veut, souvent pour montrer que la puissance ne vient pas des qualités humaines, mais de lui seul. C'est lui qui choisit, qu'il met en place au pouvoir, même si cela signifie que parfois il donne le pouvoir à des tyrans, à des dictateurs, etc. Dans la Bible, nous voyons l'exemple de Nabucodonosor que, malgré qu'il soit cruel et orgueilleux, a élevé par Dieu comme instrument pour ses desseins. Le passage montre qu'il avait été élevé dans la plus haute position et ensuite a dû être humilié afin de comprendre la souveraineté de Dieu. L'application pratique pour ce point-là, reconnaître que toute autorité vient de Dieu, nous invite à prier pour nos dirigeants, même s'ils ne répondent pas à nos critères, à nos valeurs. Dieu peut travailler à travers n'importe qui et notre rôle est de rester confiant dans son contrôle ultime. Quelques questions. Prenez un moment pour demander, est-ce que je lutte avec l'idée que certains dirigeants sont en place par la volonté de Dieu? Comment puis-je prier pour eux, même s'ils ne sont pas dans la même famille politique? Oui? Oui? Non, mais éventuellement...
Bien, je voulais pas... Bien, je sais que tu voulais pas intervenir sur ces points-là, mais je voulais juste partager que c'est un élément de réflexion de l'idée de lutter contre le fait que certains dirigeants sont en place par la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a quelques-uns, je ferais sauter, comme on dit, là. Mais je suis conscient que dans l'Ancien Testament, pas juste avec Nabucodonosor, mais que Dieu a permis qu'il y ait des bons rois et qu'il y ait des mauvais rois. Ça, c'est, moi, c'est un élément de réponse pour ma part. L'autre élément aussi, c'est que Dieu a déjà avisé qu'il y aura des temps où il y aura des guerres, des tumultes dans le monde, ainsi de suite. Donc, c'est signe que Dieu savait que ça viendrait aussi, tu sais. Mais d'un autre côté, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mm-hmm. Fait que je comprends que la souveraineté, Dieu est là, qui provient toute chose, mais voir les méchancetés de tellement de dirigeants autour de nous qui font souffrir des peuples en entier, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que t'attends?
Mais tu as mentionné les bons rois et les mauvais rois. Selon toi, pourquoi il y a les mauvais rois? Parce que dans le fond, c'est un peu la réponse à la question.
Oh, effectivement, mais pourquoi il y a des mauvais rois? Parce que c'était des mauvais rois au niveau d'Israël, parce qu'Israël avait péché. Pour moi, c'était une conséquence de ça. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens, ils ont peut-être pas les conséquences de leur situation. Dans d'autres pays ailleurs, en Corée du Nord ou en Russie, ou on peut tout m'en nommer beaucoup. Là. Mais dans l'Ancien Testament, c'était plus des mauvais rois. Pour Dieu faire prendre conscience au peuple qui revienne à lui. Aujourd'hui, je ne pourrai pas te donner réponse pourquoi, là, mais c'est le genre de choses que ça amène, ça amène des réflexions.
Ouais. Des fois, on peut, dans le fond, peut-être un élément de réflexion ou pour réfléchir dans ce sens-là. Probablement que Dieu nous laisse à nous-mêmes. Et là, on peut l'identifier par des peuples, par des pays, mais ne serait-ce que par l'homme avec un grand H, Lorsque Dieu nous laisse à nous-mêmes, mais voici comment nous on est réellement, c'est quoi notre nature. Et des fois, bien souvent, ceux qui veulent parler contre Dieu ou ils se posent cette question, ils disent « Pourquoi Dieu, tu permets ci, tu permets ça? » Mais dans le fond, c'est plutôt l'homme qui fait. C'est pas Dieu qui fait, c'est pas Dieu qui fait la guerre, c'est pas Dieu qui est en action, mais plutôt le cœur de l'homme qui est dévoilé clairement devant tous. Et ceux qui sont au pouvoir, mais leur cœur est dévoilé par les positions qu'ils font, les décisions qu'ils prennent et qu'ils font vivre à leur peuple. Mais effectivement, c'est un mystère, jusqu'à, dans certains mystères de la parole, de la Bible, ça, c'en est un. Même si on a des pistes de réflexion, on peut aussi, on va passer un peu plus tard, la souffrance. Pourquoi Dieu permet la souffrance? C'est un autre élément aussi de réflexion qu'on peut essayer d'avoir des pistes de réponse, mais des fois, on reste sur notre appétit, comme on dit. Alors, on était rendu au point 6. Il peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Piper montre ici que Dieu humilie ceux qui s'élèvent dans l'orgueil. L'histoire de Nabuchodonosor montre que l'orgueil conduit souvent à la chute. Ce roi puissant doit apprendre par l'humiliation que tout pouvoir est sous la domination de Dieu. Ce rappel de la faiblesse humaine face à Dieu est aussi un appel à l'humilité. Cette humiliation des orgueilleux est également démontrée dans la chute de Balthazar en Daniel 5, dont l'orgueil le mène à une fin soudaine et tragique. Il est puni par son arrogance et son manque de respect envers Dieu, démontrant que l'orgueil conduit à la destruction sous la souveraineté de Dieu. Piper définit l'orgueil et la résistance au plus grand but de la providence. Aux pages 314 et suivantes, nous voyons des exemples où Dieu est intervenu lorsque l'orgueil était présent. Son jugement sur Israël était une mise en garde contre l'orgueil. Son jugement sur Moab était une mise en garde contre l'orgueil. Son jugement sur Tyr était une mise en garde contre l'orgueil. Son jugement sur l'Assyrie était une mise en garde contre l'orgueil. Son jugement sur Babylone était une mise en garde contre l'orgueil. Son jugement contre l'homme était une mise en garde contre l'orgueil. Et son jugement contre le monde était une mise en garde contre l'orgueil. L'humilité est essentielle pour marcher avec Dieu. Reconnaître que notre succès ne vient pas de nous, mais de Dieu, nous protège de l'orgueil et nous garde proche de lui. Quelques questions encore une fois. Y a-t-il des domaines dans notre vie où nous laissons l'orgueil prendre le dessus? Comment pouvons-nous pratiquer l'humilité aujourd'hui pour nous rappeler que tout ce que nous avons vient de Dieu? On parlait tout à l'heure, on peut parler de santé, on peut parler de l'énergie qu'on a, on peut parler des opportunités, mais tout ça, est-ce que c'est la réussite vient parce que c'est moi ou parce que Dieu l'a voulu ainsi et Dieu l'a permis? Le point 7, toutes ses œuvres sont vraies et ses voies sont justes. Piper affirme que même quand Dieu exerce son jugement, il agit avec vérité et justice. Et ceci s'applique également aux dirigeants et aux nations. Quand Dieu exerce son jugement, il le fait avec droiture et justice, et ses décisions ne sont pas capricieuses, elles reflètent sa sainteté. On lit après sa restauration, Nabuchodonosor loue Dieu pour sa justice. Ce changement de cœur montre que, même après avoir été puni, il reconnaît que ses œuvres de Dieu sont justes et que ses voies sont parfaites. Lorsque tout semble fluctuant et incertain, Dieu est juste et toutes ses œuvres le sont aussi. Aux pages 320-321 du livre, nous avons 10 exemples d'œuvres qu'il accomplit et démontre sa justice. Et là, je vois le temps, je ne vais pas tous les lire, mais il y en a plusieurs que vous allez pouvoir voir. Toutes ces voies, il y a les versets aussi qui viennent avec ça. « Tous ses voies sont justes, le Seigneur est juste, les cieux déclarent sa justice » et il y en a, je pense qu'il y en a une dizaine là-dessus. L'application, en sachant que Dieu est toujours juste, nous pouvons lui faire confiance. Même quand nous ne comprenons pas ses actions, cela nous aide à accepter ses jugements dans notre vie, sachant qu'il est toujours, qu'il agit toujours avec justice. N'oublions pas, nous méritons la mort pour nos péchés. Mais rappelons-nous que Dieu est juste et que ses jugements sont parfaits. Nous pouvons lui faire confiance même quand on ne les comprend pas. Quelques questions. Comment pouvons-nous renouveler notre confiance et nous rappeler que sa justice et sa vérité sont parfaites? Même dans la souffrance, comme j'ai dit tantôt, même dans la souffrance. Rappelez-vous l'histoire de Job. Il est nécessaire d'accepter le mystère de la souffrance et la grandeur de Dieu. Dieu veut que les vivants sachent et se réjouissent de ce que le Très-Haut domine sur toutes ses façons. Piper souligne que Dieu veut que ses créatures comprennent sa souveraineté et s'en réjouissent. Il veut que les hommes trouvent leur paix dans la certitude de sa providence. Il désire que nous reconnaissions sa souveraineté et trouvons la paix en elle. Dieu veut que nous soyons réconfortés et joyeux en sachant qu'il contrôle tout. On peut également voir la main de Dieu au cours de l'histoire. Nous connaissons des empires qui ont une très grande influence ou qui ont tout simplement dominé une grande région. Ces empires ont prospéré parce que Dieu l'a voulu ainsi. Que ce soit, puis on prend par exemple l'Empire romain, qui entre autres qui a crucifié Jésus, ou bien que la domination britannique un peu plus récemment dans l'histoire et l'horreur des traites d'esclaves qu'il y a eu pendant cet empire-là, on peut observer que ces deux événements ont contribué à l'expansion du message de l'Évangile. La bonne nouvelle a premièrement été propagée par cheval pendant le temps des Romains et si on va un peu plus loin dans l'histoire, par bateau lorsque l'Empire britannique a conquéri le côté de l'Amérique du Nord. Application pratique pour ce point-là. Dans les moments de stress ou d'inquiétude, souvenons-nous que Dieu est souverain et que rien ne lui échappe. Cette vérité peut être une source de paix et de joie pour ceux qui se confient en lui. Quelques questions. Pouvons-nous identifier un domaine dans notre vie où nous avons besoin de cette paix? Comment pouvons-nous nous arrêter et reconnaître que Dieu est au contrôle? Ce n'est pas pour vous, mais pour moi, c'est le salut de mes enfants, le travail, pouvoir pourvoir à ma famille, les finances de l'Église. Alors, vraiment reconnaître que Dieu est au contrôle de tout. Le dernier point, il veut que nous sachions que lorsque nous échouons à nous soumettre à la domination de Dieu, nous nous comportons comme des animaux. Ici, au chapitre 4, verset 33, « Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs. » Piper conclut en expliquant que rejeter la souveraineté de Dieu nous éloigne de notre humanité. Nebuchadnezzar est réduit à un état animal, nous montrant que sans Dieu, nous perdrons notre dignité et notre but. Sa transformation en un être déchu, vivant comme un animal, illustre ce point. Sa folie est une métaphore de l'état de ceux qui rejettent la souveraineté de Dieu, soulignant la nécessité de la soumission et l'humilité devant lui. Lorsque nous rejetons Dieu, nous perdons notre sens. Application pratique, Dieu nous appelle à vivre en relation avec lui. Si nous refusons de le reconnaître comme Seigneur, nous nous éloignons de ce pourquoi nous avons été créés, qui est de glorifier Dieu et de vivre selon sa volonté. Quelques questions. Demandons-nous, est-ce que je laisse certaines parties de ma vie en dehors de la domination de Dieu? Comment puis-je lui soumettre entièrement ma vie pour vivre selon son dessein? Ces 9 aspects que Piper fait l'emphase montrent que la portée de la providence de Dieu, une reconnaissance qu'il domine sur les hommes, qu'il dirige les décisions et les destinées des rois des nations, qu'il contrôle les dirigeants de la terre, qu'il accorde le pouvoir, qu'il abaisse les orgueilleux, qu'il agit avec justice, qu'il désire que nous trouvions la paix en lui et qu'il nous appelle à vivre en relation avec lui. Pour terminer, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons découvert que Dieu n'est pas un spectateur distant, mais un père actif dans l'histoire. Sa providence s'étend sur les nations les plus puissantes, sur les dirigeants les plus influents et jusqu'à dans les détails les plus intimes de nos vies personnelles. Rappelez-vous ces vérités. Dieu règne même quand le monde semble chaotique. Aucun plan humain ne peut contrarier son plan ultime et que sa justice dépasse notre compréhension limitée. En tout cas, la mienne. Comme mentionné au début, ceci n'est pas une doctrine abstraite, mais une invitation personnelle à faire confiance, même quand nous ne comprenons pas, à nous soumettre plutôt que de résister et à trouver notre paix dans sa souveraineté. Maintenant, comment devrait être notre posture face à tout cela? Notre réponse doit être l'adoration et la soumission. Comme Nabucodonosor l'a appris, notre grandeur n'est rien comparée à sa majesté. Notre rôle est de reconnaître sa souveraineté et de nous en réjouir. Là, j'ai entendu. Voilà, j'espère que cela vous aura édifié.
Merci, Joël. Les gars sont courageux, hein? On les expose. J'ai dit, on va donner un cours, puis tous les anciens vont enseigner, puis on va prendre un petit sujet pour la première fois. On va prendre la providence de Dieu. Merci, Joël. Je voulais juste vous mentionner, donc, la semaine prochaine, je ne suis pas sûr qui est prof la semaine prochaine. C'est qui?
Michel.
C'est Michel. Oh! Ça va être entre de bonnes mains. Et ce que je voulais vous mentionner, c'est que le dimanche suivant, les anciens vont être... On va avoir notre retraite des anciens. Et donc, il ne devait pas y avoir de cours. Mais comme on a eu une petite panne électrique et qu'on a pris un retard d'un cours, il y aura un cours. Alors, Dieu voulant, vous allez avoir Yannick Etienne en vidéo. D'accord? Je dois enregistrer ça cette semaine. Mais c'est ça. Donc, il va y avoir un cours. Ça va être une vidéo pour ce matin-là, exceptionnellement. Et juste peut-être pour que vous n'ayez pas le goût de rester à la maison en disant « Ah, c'est juste une vidéo, ça va être plate. » Je vais prendre au moins 15 minutes pour essayer d'aborder les questions qui reviennent régulièrement. Toute la question de le sentiment d'injustice face à l'élection de Dieu ou face à la réalité du mal que Dieu permet. Je vais essayer d'aborder ces questions-là de manière assez pointue. Je vais prendre un temps réservé juste pour ça. C'est bon? Merci à tous. Merci pour votre fidélité. On est encore 56, quelque chose comme ça, ce matin. Que Dieu vous bénisse.